Bonjour, bonjour à tous et bienvenue pour notre webconférence sur vos obligations employeurs en matière d'égalité femmes-hommes. Je suis Mylène Volpillac, je suis ambassadrice jury travail et aujourd'hui j'ai le plaisir d'être accompagnée par Gwenaëlle Petit. Bonjour Gwenaëlle.
Bonjour Mylène, bonjour tout le monde.
Et Gwenaëlle qui est juriste expert chez jury travail. Pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, qu'est-ce que Jury Travail? Jury Travail, c'est le leader de l'information juridique en ligne depuis 20 ans et 20 ans cette année. Nous avons une équipe de plus de 50 juristes et 700 avocats, donc juristes dont Gwenaëlle fait partie, qui chaque jour vont décrypter l'actualité juridique et vont rédiger des dossiers, des modèles de lettres, des modèles de contrats, des guides en fait, pour vous accompagner au quotidien dans la gestion de votre entreprise. Nos experts vous accompagnent dans vos démarches, quel que soit le domaine de droit. Et aujourd'hui, et nous en sommes très heureux, nous avons plus de 3 000 entreprises qui nous font confiance et qui vont utiliser nos services au quotidien pour la gestion de leur entreprise. Alors, quels sont-ils, du coup, nos services? Nous avons créé deux formules spécialement pour les professionnels. Donc, nous avons une formule pro et une formule premium. Ces formules vont vous permettre de contacter un juriste, donc par téléphone, quand vous le souhaitez en semaine, qui répondra à toutes vos questions, quel que soit le domaine de droit. Vous pourrez également accéder à l'ensemble de nos dossiers, thématiques, modèles de lettres, de contrats, documents RH, qui sont à jour, bien évidemment, des derniers textes de loi. Et vous pourrez profiter de votre convention collective, bien évidemment, à jour des derniers accords. Je vous invite vivement, à l'issue de notre webconférence avec Gwenaëlle, à aller sur le site de Jury Travail, découvrir quelles sont les formules et découvrir la formule surtout qui vous correspond le mieux et correspond aux besoins de votre entreprise. Je pense qu'Élodie vous a envoyé le petit lien dans le chat, donc n'hésitez pas à aller voir nos solutions pour les pros. Nous allons donc pouvoir rentrer, Gwenaëlle, maintenant dans le vif du sujet. Tout d'abord, un petit point sur le contexte et surtout un chiffre. 24,4%, c'est l'écart qu'il existe encore en 2023 dans la rémunération entre une femme et un homme. Donc c'est beaucoup, encore 24,4%. Et en tant qu'employeur, en tant qu'RH, vous êtes pourtant tenu d'assurer le principe selon lequel à travail égal, salaire égal. Donc, nous allons voir tout au long de la webconférence quelles sont vos obligations en tant qu'employeur sur l'égalité homme-femme, comment et où publier l'index d'égalité professionnelle et quelles sont les nouvelles mesures prévues notamment par la directive européenne en droit français. Pour traiter l'ensemble de ce vaste sujet, nous avons 5 grandes parties. La première, Gwenaëlle, nous décrira donc les principes généraux et les champs d'application du principe d'égalité homme-femme au travail. Ensuite, il nous décrira les mesures qui visent à supprimer les écarts de rémunération. Ensuite, les aides auxquelles vous pouvez prétendre en tant qu'employeur. Nous aurons toute une partie sur le vrai-faux avec vraiment des mises en situation, pardon, savoir comment il est possible ou non de justifier un écart de rémunération. Et ensuite, nous ferons un point sur les sanctions que vous risquez si vous ne respectez pas ces obligations. Donc, Gwenaëlle, si c'est bon pour toi, nous allons pouvoir débuter avec notre première grande partie sur les principes généraux et les champs d'application du principe d'égalité, donc entre les hommes et les femmes. Et dans un premier temps, est-ce que tu peux me donner une définition, s'il te plaît?
Merci Mylène. Donc en fait, comme tu l'as très bien expliqué au tout début, cette égalité donc de rémunération ou même de traitement entre les hommes et les femmes sont issues d'un grand principe jurisprudentiel de 1996. Cette jurisprudence a découlé effectivement ce grand principe de travail égal, salaire égal. Sauf que le législateur, il a même allé plus loin en insérant dans le Code du travail vraiment un article bien spécifique pour effectivement cette égalité de traitement, pour entre guillemets réduire cette inégalité entre les hommes et les femmes. Et du coup, aujourd'hui dans le Code du travail, on a un article de loi. C'est l'article L3221-2 qui précise très clairement que pour un même travail ou un travail de même valeur, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes doit être tenue. Là, on a deux grandes notions qui apparaissent. Ça va être déjà la notion de rémunération et ensuite la notion de valeur égale. Pour la rémunération, on ne va pas juste se contenter du salaire de base. On va prendre également en considération les différents avantages, tels que les primes, ou alors les avantages en espèces ou en nature, puisque cette égalité de rémunération porte également sur ces éléments-là. De plus, pour la notion de valeur égale, va y avoir en fait cette notion de travail qui va être assimilée ou en tout cas correspondre par un titre, par un diplôme, par une pratique professionnelle, une expérience acquise, une responsabilité ou même des charges physiques ou nerveuses qui doivent être similaires pour avoir effectivement la notion de travail égal. À titre d'exemple, bien sûr, un salarié ne peut pas prétendre à une égalité de traitement et donc salariale lorsque le travail, par exemple, d'un manager est différent d'un travail de salarié de production. La rémunération ne peut pas être égale puisque le travail, lui, n'a pas la même valeur. Parfait exemple.
Merci beaucoup Gwenaëlle. Je ne vous l'ai pas dit, mais si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à nous les poser dans l'onglet « Questions » qui se trouve en bas à droite de votre écran. Nous allons répondre avec Gwenaëlle en fin de webconférence. Et si jamais nous n'avons malheureusement pas le temps de répondre à toutes vos questions, Elodie vous enverra un lien directement dans le chat. Vous pourrez poser vos questions directement à nos juristes qui vous répondront avec grand plaisir dans les 24 heures. Donc merci Gwenaëlle pour cette réponse-là. Maintenant, est-ce que tu peux nous parler des nouvelles mesures et de l'impact pour l'employeur sur la transparence des rémunérations?
Alors, du coup, on va parler de nouvelles mesures, mais ça va être surtout une grande nouvelle mesure qui a été votée en fait par le Parlement européen cette fois-ci. C'est la directive 2023/970 qui, effectivement, aujourd'hui donc a été votée. Alors, pas aujourd'hui, 6 février, mais elle a été votée le 10 mai 2023. Alors par contre, attention, cette directive, quand bien même qu'elle a été votée donc le 10 mai 2023, n'est aujourd'hui pas applicable en droit interne, donc en France, puisque comme il s'agit d'une directive, le Parlement français doit faire ce qu'on appelle une loi de transposition pour effectivement intégrer les nouvelles mesures dans le droit français. Mais effectivement, cette directive impose à l'ensemble des États membres de l'Union européenne d'appliquer une loi de transposition avant le 7 juin 2026. Pour le bien de la webconférence, j'ai quand même regardé juste avant, aujourd'hui, donc 6 février, la loi n'est pas transposée en droit interne français. Mais on verra un petit peu plus tard dans la webconférence, ce n'est pas parce qu'elle n'est pas transposée et donc appliquée en droit interne que vous, en tant qu'employeur, vous ne pouvez pas déjà appliquer ces mesures. Qu'est-ce qu'on va retrouver? Déjà, il va y avoir deux grands principes, deux grands articles dans cette directive. Il va y avoir en fait l'article 5 qui va imposer une transparence de rémunération dès l'embauche et donc l'employeur devra, dans l'offre ou au moment de l'entretien, donner le salaire correspondant au poste ou alors une fourchette. De plus, la volonté des législateurs européens, c'est également d'imposer aux employeurs une transparence sur l'écart de rémunération. Et l'article 9 de cette directive va imposer aux différents employeurs d'informer l'ensemble des tiers sur l'écart des rémunérations entre les hommes et les femmes dans l'entreprise, l'écart de rémunération médian, les différents quartiles, les différents écarts de rémunération, mais cette fois-ci sur les primes ou les composantes variables, mais également les différents écarts de rémunération sur les postes hiérarchiques. Voir si effectivement il y a plus ou moins de femmes dans les hauts postes de l'entreprise et également s'il y a une écart de rémunération. Ce sont les principaux effectivement éléments qui sont apportés par cette directive. Bien sûr, il y en a d'autres et je vous inviterai à contacter nos juristes pour avoir plus de précisions. De plus, cette directive, cette fois-ci, elle donne libre champ au droit interne, donc à chaque pays, de placer une sanction. Cette sanction, elle peut être indemnisatoire pour la victime de cette discrimination, qui va permettre effectivement à celle-ci d'obtenir un dédommagement pour le préjudice qu'elle a subi, mais également une sanction pénale pour en fait pénaliser directement l'entreprise et l'employeur par rapport du coup à la proportion donc de la discrimination qui a eu lieu. Voilà un peu le grand principe de la nouvelle mesure.
Merci beaucoup, Gwenaëlle. Nous allons pouvoir du coup passer à notre seconde grande partie sur comment supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes dans l'entreprise. Et première question, qu'est-ce que l'index d'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes?
Alors, cet index, il a été instauré donc depuis 2020 pour l'ensemble des entreprises de plus de 50 salariés. Cet index, il est mentionné à l'article L 1142-8 du Code du travail et suivant, et prévoit que cet indicateur relatif à l'écart de rémunération entre les femmes et les hommes dans l'entreprise va indiquer si effectivement l'entreprise fait des bonnes pratiques ou en tout cas utilise des bonnes pratiques pour compenser cette inégalité. Cet indicateur va également mesurer si le niveau d'écart salarial, puisque concrètement, pour les entreprises, alors je prends le cas des entreprises de 50 à 250 salariés, puisque je pense que c'est la majorité des entreprises représentées dans cette web conférence, mais les critères retenus, en tout cas pour ce type d'entreprise, par le Code du travail, ça va être de prendre en considération l'écart de rémunération de base sur le calcul et les variables, l'écart de taux d'augmentation individuelle de salaire, donc savoir si effectivement est-ce que les femmes ou les hommes ont été plus ou moins augmentés chaque année, le pourcentage de salariés, ainsi que le nombre de salariés de sexe sous-représentés ou surreprésentés parmi les 10 plus gros salaires de l'entreprise. Et c'est l'ensemble de ces critères qui donnent en fait un indicateur sur 100 du respect de l'égalité professionnelle sur le salaire ou le traitement de l'entreprise entre les femmes et les hommes.
Merci beaucoup, Gwenaëlle. Comment et où publier du coup cet index?
Alors, cet index, il doit être publié de trois manières. Pour les salariés, le salarié, effectivement, doit être au courant de cet index et il doit être publié tous les 1er mars de chaque année, soit sur le site Internet ou à défaut, soit effectivement porté à connaissance des salariés par tout moyen. Concernant ensuite le ministère du Travail, l'index, lui, il doit être publié sur le site egapro.travail.gouv.fr. Tous les 31 décembre de chaque année. Et ensuite, bien sûr, le CSE doit être informé également de cet index. Et cette fois-ci, c'est également le 1er mars de chaque année pour l'année précédente. Pour vous donner un exemple, le 1er mars 2024, le CSE doit être informé de l'index de 2023 par l'employeur. Si l'employeur ne respecte pas son obligation de publication, il peut se voir imposer une pénalité financière qui peut aller jusqu'à 1% de la masse salariale. C'est ce qui est prévu à l'article L 2242-8. De plus, si il ne respecte pas son devoir d'information auprès du CSE, ça peut caractériser un délit d'entrave au CSE. Et là, c'est une amende de 7 500 euros. Pareil, prévu également par le Code du travail.
Donc la procédure a bien respecté alors.
Effectivement.
C'était très clair, Gwenaëlle, merci. Maintenant, plus largement, d'un point de vue juridique et social, comment améliore-t-on le niveau des résultats des indicateurs?
Eh ben, j'en parlais juste avant, justement, de cette fameuse directive. C'est pas parce qu'aujourd'hui elle n'est pas transposée dans le droit interne et qu'elle n'est pas contraignante envers vous, les employeurs, que vous ne pouvez pas déjà l'appliquer. Puisque, effectivement, en appliquant déjà dès aujourd'hui certains critères ou certains principes, eh ben, ça peut permettre, effectivement, d'augmenter cet indicateur pour qu'il soit, effectivement, supérieur à 75. Concrètement, il y a d'autres démarches qui peuvent être effectuées. Ça peut être déjà dès le recrutement pour améliorer en fait les codes de bonne conduite en matière de recrutement afin d'éviter toute dérive discriminante, pour éviter d'embaucher effectivement plus un sexe que de l'autre, ou alors compenser déjà l'effectif déjà présent. Ensuite, ça peut passer par différentes formations ou qualifications. Le but effectivement va être de prioriser aux personnes qui ont effectivement un devoir managérial ou même comment dire, de subordination, de les former justement à cette potentielle discrimination ou cette potentielle inégalité qui peut exister au sein de leur entreprise. Ensuite, il peut y avoir effectivement les questions de promotion, plus ou moins importantes, pour compenser effectivement du coup, les écarts déjà présents. La classification, on peut revaloriser par le biais d'accords d'entreprise les différents salaires ou les différentes grilles, ou même d'ailleurs les emplois directement, les emplois dits féminins, puisqu'effectivement, il peut y avoir dans certaines entreprises des catégories de travail qui sont prises exclusivement pour les femmes, donc on peut essayer de voir revaloriser celles-ci. On peut également appliquer des choses dans l'entreprise pour l'équilibre vie professionnelle-vie personnelle, donc prendre en compte les contraintes géographiques, salariales, le télétravail, l'aménagement du temps de travail, etc. Ensuite, les conditions de travail en elles-mêmes, mais également la communication envers l'ensemble des salariés pour éviter toute discrimination. Ça, ce sont des mesures. Il n'en existe pas, voilà, c'est pas limitatif. Si vous avez des questions à propos de ces différentes solutions qui peuvent être trouvées, moi, je vous inviterai à nous contacter directement, puisque moi, je vous donne des solutions dites généraux. Maintenant, chaque situation et chaque entreprise est particulière. Peut-être qu'effectivement, il y a des choses qui seront peut-être plus intéressantes dans une entreprise, ne le seront pas dans une autre. Tout dépend encore une fois, cas par cas.
Merci beaucoup Gwenaëlle. Oui, et donc du coup, n'hésitez pas, comme le disait Gwenaëlle, à poser votre question via le lien que vous a envoyé Elodie. Je reviens sur une question. Je vais sur une question d'une participante, pardon. Est-ce que tu peux nous rappeler le site où nous devons publier l'index le 31
Oui, bien
décembre?
sûr. Alors, le 31 décembre, le site,
Ah ben,
c'est.
Elodie a répondu.
Ah, pas parfait. C'est egapro.travail.gouv.fr.
C'est parfait. Merci beaucoup. Du coup, prochaine question. L'employeur est-il sanctionné si les résultats de l'index sont inférieurs à 75?
Alors, dans le cadre effectivement où le score est inférieur à 75, l'employeur, la direction, a l'obligation, vraiment j'insiste sur l'obligation, c'est vraiment pas lui qui choisit, de prendre toute mesure de correction et le cas échéant de mesures financières de rattrapage de salaire si besoin, pour effectivement compenser cet index qui est inférieur à 75. Il a quand même un délai, ce délai il est de 3 ans. Sachant qu'il peut être prorogé s'il y a eu des actions de l'entreprise et également de pourquoi en fait ces actions qui ont été mises en place sont défaillantes, puisque effectivement le simple fait de mettre des actions ne suffit pas à proroger du coup le délai. Il faut voir si ces actions effectivement avaient un réel but à compenser l'index et également voir pourquoi elles ont échoué. La sanction, c'est quoi? C'est une pénalité financière prévue à l'article 2242-8 du Code du travail. Et cette pénalité, elle est de 1% de la masse salariale également.
Très clair, merci Gwenaëlle. Autre question, qu'est-ce que le plan pour l'égalité professionnelle, s'il te plaît?
Alors, un plan pour l'égalité professionnelle, ça va être un plan qui va être organisé donc au sein de l'entreprise par l'employeur pour effectivement donner donc des mesures temporaires pour effectivement le bénéfice des femmes visant justement à rétablir cette égalité des chances au sein de l'entreprise. Alors, ce plan peut composer pardon plusieurs choses. Ça va être effectivement l'application donc des choses qu'on a vues préalablement dans comment même améliorer l'index. Encore une fois, ce plan, il faut quand même qu'il soit calqué sur la situation de l'entreprise. On ne va pas prendre des mesures qui n'ont pas pour but d'améliorer effectivement l'égalité professionnelle si, de base dans l'entreprise, il y a déjà une égalité sur ce plan-ci. Ce plan, il doit être élaboré avec l'avis du CSE, mais également de la DREETS, sachant que eux peuvent s'opposer à ce plan dans un délai de 2 mois à compter de sa promulgation. Si effectivement il s'oppose, il faut quand même que ça soit justifié, notamment sur ce que je viens de dire. Est-ce qu'il y a réel intérêt sur ce qui a été mis en place dans ce plan et savoir effectivement s'il y aura un réel impact ou pas. Voilà.
Très clair, Gwenaëlle, merci. Nous allons pouvoir passer du coup à notre troisième grande partie qui va vous intéresser sur les aides auxquelles vous pouvez prétendre du coup pour favoriser l'égalité entre les hommes et les femmes. Et la première question, qu'est-ce que le contrat pour la mixité des emplois et l'égalité professionnelle?
Alors, ce contrat, déjà, il existe depuis effectivement un certain moment, puisqu'il a été instauré depuis déjà 2011. Il est situé donc dans le Code du travail, aux articles R1143-1. Et en fait, ce contrat, qui est un contrat entre l'entreprise et l'État, ça va être un contrat qui est réservé pour toute entreprise de moins de 300 salariés et qui va avoir pour but de procéder à une aide financière pour procéder à une étude pour savoir en fait concrètement si dans l'entreprise est-ce qu'il y a une égalité professionnelle et comment effectivement on peut y remédier. Et effectivement, ce contrat avec du coup l'État peut permettre un financement pour accélérer la réduction de cette inégalité. Ce contrat est soumis à l'avis des différentes organisations syndicales, mais il doit être en plus conclu qu'après soit un accord d'entreprise, qui mentionne effectivement la volonté de celle-ci de vouloir faire un contrat avec l'État sur ce principe-là, soit après adoption d'un plan pour l'égalité professionnelle, puisque comme on vient de le voir juste avant, un plan pour l'égalité professionnelle homme-femme peut comprendre effectivement ces fameux contrats, soit après effectivement l'adoption d'une ou plusieurs mesures en faveur de la mixité des emplois prévues donc par l'employeur. Ce contrat, qu'est-ce qu'il va comporter? Il va comporter effectivement l'objet et la nature de l'engagement qui va être souscrit avec l'employeur et l'État, le montant de l'aide qui va être versé par l'État, ainsi que les modalités de versement. Il peut y avoir effectivement plusieurs modalités, soit en une fois, soit en plusieurs fois, soit effectivement un forfait. Enfin, il peut y avoir plusieurs modalités. Tout dépend encore une fois du cas par cas de l'entreprise et du contrat qui est signé. Et également les modalités d'évaluation, puisque l'État va effectivement fournir une aide, mais elle ne va pas juste fournir une aide. Elle va quand même évaluer l'utilisation de cette aide financière et voir si elle réduit du coup l'égalité. Sachant que, en plus de l'évaluation, il peut y avoir un contrôle de l'État suite au versement de cette aide.
Et du coup, de quel montant, quel est le montant de cette aide?
Alors, le montant de cette aide, il va varier suivant les besoins de l'entreprise et du contrat, comme je viens de le dire, signé. Donc, l'article D1143-12 du Code du travail prévoit trois types d'aide. Il va y avoir une aide qui va correspondre en fait à 50% du coût d'investissement en matériel lié à la modification, par exemple, d'une organisation ou des conditions de travail. Je donne un exemple. Par exemple, si l'entreprise veut aider à instaurer un télétravail pour que du coup, c'est une favorisation donc d'égalité, et ben par exemple, ça peut engendrer un coût suivant ce que le salarié a besoin pour travailler. Donc le coût peut être pris en charge par l'employeur et via cette aide, effectivement. Via les contrats avec l'État, eh ben, l'État peut prendre jusqu'à 50% du coût d'investissement. De plus, il va y avoir un investissement de 30% des coûts et des dépenses de rémunération exposées par l'employeur pour les salariés, bénéficiant justement dans le cadre de formation, comment dire, de formation, d'intervention, de professionnels extérieurs. Enfin, voilà, ça peut être effectivement tout élément qui peuvent permettre une formation ou une sensibilisation des différents salariés, des managers, etc. Et bien, effectivement, ces coûts peuvent être pris jusqu'à 30% par ces fameux contrats. De plus, il peut y avoir des coûts annexes qui sont plus ou moins variables suivant les entreprises et qui peuvent, lui, également aller jusqu'à 50% de la prise en charge par l'État.
Oui, donc c'est intéressant.
Effectivement.
Merci Wenaël. Si ce contrat, du coup, n'est pas suivi d'action, est-ce que l'employeur doit rembourser l'aide à l'État?
Alors, comme je viens de vous le dire, effectivement, l'État ne se contente pas effectivement de verser une aide. Il va effectivement faire un contrôle et également une évaluation sur ce qui est fait, ce qui va être fait et ce qui reste à faire. En cas de non-respect du contrat ou des évaluations, eh ben, l'État peut se voir effectivement avoir le droit de récupérer l'entièreté de la somme qui a été versée pour l'aide à l'entreprise. Bien sûr, ça ne se passe pas du jour au lendemain. L'État ne peut pas décider le lendemain de vous reprendre la rémunération ou en tout cas l'aide qui a été fournie. Pour pouvoir établir en fait un défaut d'effectivité du contrat, il va y avoir des évaluations qui vont être mises en place par l'État via donc des tiers qui vont intervenir dans l'entreprise. De plus, le CSE, lui, doit être régulièrement informé déjà contrat, comme on l'a vu précédemment, puisque c'est sous avis du CSE, mais également de l'exécution en elle-même des différentes dispositions qui ont été prévues par le contrat, les différents taux de rémunération d'aide qui a été versé par l'État, et également des comptes rendus d'évaluation de l'État lors de leur intervention. De plus, le compte rendu de l'exécution donc des différents engagements pris par l'employeur doit être également envoyé à l'adresse. Voilà, pour le contrôle et du coup la possibilité pour l'État de reprendre les sommes en cas de défaut d'exécution.
Merci beaucoup, Gwenaëlle. Je vois qu'on a plusieurs questions et notamment des questions sur l'index. Rassurez-vous, nous y répondrons à la fin de la webconférence avec Gwenaëlle. Nous allons passer du coup à notre partie vrai-faux, où les situations où l'écart de salaire est justifiable. Donc Gwenaëlle, le coût de la vie en fonction des zones géographiques peut-il justifier une rémunération différente pour un travail égal?
Oui, arrêt donc de 2016 qui a statué en cette faveur d'écart de rémunération, puisque la zone géographique est une justification objective pour justifier un écart de salaire. Puisqu'on s'en doute bien, à titre d'exemple, le coût de la vie à Paris n'est pas le même qu'en province. Et juste cet élément-là peut permettre une différenciation des salariés pour l'entreprise avec du coup la société à Paris et la société en province.
Les horaires de travail différents entre les salariés peuvent-ils justifier des salaires différents?
Alors, oui et non. Je vais nuancer donc effectivement cette question, puisqu'en fait, il y a un arrêt donc de 2013 qui prévoit très clairement que le simple fait que, par exemple, un salarié travaille de jour et un salarié travaille de nuit, le salaire brut en lui-même ne peut pas être différent. D'accord? C'est en fait la différence va s'opérer sur en fait la rémunération et même la majoration des heures exceptionnelles qui vont être faites par la différenciation de nuit ou de jour. Donc, pour résumer grossièrement, l'écart brut du salaire, lui, non, pas de différenciation, mais différenciation va s'opérer par la majoration des heures exceptionnelles.
Une ancienneté différente peut-elle justifier un salaire différent?
Ça dépend des cas. En fait, il y a deux situations à effectivement distinguer. Il va y avoir la condition en fait essentielle de savoir s'il en vaut la société ou si la convention collective nationale le prévoit, s'il existe une prime d'ancienneté ou pas. S'il n'existe pas de prime d'ancienneté, dans ce cas-là, et d'ailleurs, jurisprudence de 2010, l'ancienneté est une raison objective qui permet de différencier le salaire entre deux personnes. Un salarié qui a 2 ans d'ancienneté contre un salarié qui a 10 ans d'ancienneté, effectivement, le salarié de 10 ans d'ancienneté va avoir un salaire différent, généralement plus souvent d'ailleurs plus important, que le salarié ayant 2 ans d'ancienneté. C'est valable, c'est tout à fait légal, pas de souci. Par contre, si dans la société où, via la convention collective, il existe une prime d'ancienneté, dans ce cas-là, l'écart de rémunération ne peut valablement pas être objectivé sur l'ancienneté. Pourquoi? Puisque l'ancienneté est déjà valorisée par une prime. Donc, le fait qu'elle soit déjà valorisée par une prime ne peut pas justifier un écart de salaire. C'est discriminatoire.
Très clair, merci. Deux salariés qui ont des diplômes différents pour effectuer des fonctions similaires, peuvent-ils être payés différemment?
Alors, pareil, on va nuancer. En principe, oui, mais l'arrêt donc de 2008 de la Cour de cassation, elle a posé quand même un principe. Le simple fait qu'il y ait un diplôme différent ne justifie pas en lui-même une différence de salaire. Il faut également que l'employeur prouve que la pertinence du diplôme dans le poste occupé. Par exemple, effectivement, si il y a 2 salariés sur le même poste, mais que l'un des salariés est plus diplômé que l'autre, il faut que, pour justifier d'une rémunération différente, il faut que le diplôme apporte une sorte de plus-value au poste, qui soit justifiée de manière objective et qu'elle apporte effectivement cette différenciation de valeur de travail. Par contre, si le diplôme en lui-même n'apporte rien de plus au poste, et bien qu'un salarié soit en bac plus 2 ou en bac plus 5, si le poste ne nécessite pas une compétence particulière au niveau du diplôme, l'écart de rémunération n'est pas valable.
Merci Gwenaëlle. Les comportements professionnels peuvent-ils justifier une rémunération différente pour des salariés occupant les mêmes fonctions?
Oui, arrêt donc de 2008 cette fois-ci. Concrètement, un comportement de salarié peut justifier une différence de rémunération. À titre d'exemple, effectivement, un salarié qui a des difficultés à travailler en équipe lorsque le poste le prévoit, ou en tout cas est nécessaire pour du coup, faire le travail au maximum, des difficultés à s'intégrer, le non-respect des directives donc de l'employeur, une insubordination, du retard, tout voilà, tous ces éléments peuvent justifier un écart de rémunération légitime.
Peut-on payer différemment deux salariés qui exercent les mêmes fonctions mais qui travaillent dans des établissements distincts?
Ah ben là, il y a 4 situations à différencier. Dans le cadre, effectivement, où les deux établissements de la même entreprise sont dans la même entreprise, le simple fait qu'ils soient dans un déplacement différent ne justifie pas un écart de rémunération. Par contre, comme on l'a vu plus haut, la zone géographique des établissements, elle, peut justifier un écart de rémunération. Mais le simple fait d'une différenciation d'établissements ne le justifie pas. Ensuite, deux établissements d'une entreprise différente, mais avec un même accord collectif ou une même convention collective nationale, là, oui, c'est possible, puisqu'on n'est pas dans le cadre d'une même entreprise. Le cas où il y a deux entreprises distinctes d'un même groupe, pareil, arrêt de 2012, c'est possible. Ce n'est pas parce qu'on fait partie du même groupe. Si les deux entreprises, elles, sont distinctes, et bien dans ce cas-là, une écart de rémunération peut être valablement acceptée. Dans le cadre où il y a deux entreprises distinctes d'une même unité économique et sociale, pareil, l'écart de rémunération est valable. En tout cas, elle est acceptée.
Un salarié mis à disposition d'une entreprise peut-il être rémunéré différemment des salariés permanents?
Alors, oui, effectivement, arrêt de 2005, cette fois-ci, puisque du coup, un écart de rémunération entre un salarié permanent et un salarié, effectivement, mis à disposition, ne justifie pas donc d'un travail ou d'une situation à valeur égale. Donc, c'est en tout cas retenu cet arrêt de la Cour de cassation. Et du fait qu'il ne se trouve pas en fait dans le principe de travail égal, dans ce cas-là, il n'y a pas de salaire égal. Voilà. En tout cas, pas d'obligation du côté de l'employeur. Par contre, s'il le fait, voilà, c'est le bon vouloir de l'employeur, mais aucune obligation ne lui contraint.
Merci Gwenaëlle. Un salarié travaille moins bien que les autres, puis-je le rémunérer différemment de ses collègues?
Alors, on l'a un petit peu vu précédemment, mais cette fois-ci sur le fait que du coup de l'insuffisance salariale ou contractuelle, oui, dans les faits, c'est possible, mais par contre, la charge de la preuve est très lourde pour l'employeur. En effet, un arrêt de 2008 prévu des critères ou des faisceaux d'indices qui permettent à l'employeur de justifier effectivement cet écart salarial sur effectivement l'insuffisance donc du travail. Par contre, il faut déjà qu'il y ait eu des avertissements ou tout élément de preuve qui indiquerait que l'employeur a averti le salarié de cette insuffisance et que si effectivement cette insuffisance continue, une rémunération différente peut se voir appliquée lors d'effectivement des augmentations annuelles ou quoi que ce soit. À titre d'exemple, dans l'arrêt de 2008, un entretien annuel d'évaluation qui mentionne effectivement ces conditions, cette insuffisance salariale, sert de preuve pour l'employeur pour justifier un écart de rémunération.
Merci Gwenaëlle. Et donc, dernière question de notre vrai-faux. Mon entreprise comprend des salariés de droit privé ainsi que des agents de droit public. Dois-je appliquer une rémunération similaire pour ceux effectuant des missions semblables?
Eh bien non, puisque concrètement, là, il n'y a pas d'obligation pareille de rémunération à travail égal, salaire égal. Ça, cette fois-ci, c'est un arrêt de 2005 qui pose pardon, ce grand principe. Et il dit quoi? Il dit, en fait, pour justifier l'écart de salaire, eh bien en fait, il se base sur le principe qu'un salarié de droit privé ainsi qu'un agent de droit public ne sont pas, en fait, dans un travail égal ou dans la même situation. Pourquoi? Dans cet arrêt, il a été jugé que concrètement, le salarié de droit privé ne pouvait pas se trouver dans la même situation qu'un agent de droit public parce que la négociation annuelle du coup du salaire de droit privé, elle se négocie tous les ans via une convention collective nationale, tandis que l'agent de droit public, lui, se voit revaloriser son salaire directement par des arrêtés promulgués par l'État. Donc, du coup, la revalorisation ne se fait pas de la même manière. Et du fait qu'elle ne se fait pas de la même manière, pas de travail égal, pas de situation de même valeur, donc écart de salaire tout à fait valide, tout à fait légal.
Merci Gwenaëlle, c'est très clair. On va passer du coup à la dernière grande partie de la webconférence avant de répondre à vos questions. Donc cette partie portera sur les sanctions en cas de non-respect des obligations. Donc que risque l'employeur s'il ne respecte pas ce principe d'égalité?
Alors, du coup, il va y avoir deux types de sanctions. Déjà, il va y avoir les sanctions directement imputables à l'entreprise, puisqu'effectivement, l'article R3222-1 du Code du travail prévoit une amende de 1500 euros à l'entreprise et elle est appliquée autant de fois qu'il y a de travailleurs rémunérés dans des conditions illégales. Donc, ça veut dire, plus il y a de salariés qui ont un écart de rémunération non justifié, plus l'amende est multipliée. De plus, il y a également une sanction pénale qui peut être appliquée directement à l'employeur, et ça, c'est l'article L 1146-1 et tirée 2 du Code du travail et prévoit très clairement que l'employeur peut être condamné jusqu'à 1 an d'emprisonnement et une amende de 3 750 euros. De plus, il existe des condamnations annexes qui, elles, effectivement, peuvent être prévues par directement le juge. Et d'ailleurs, condamnation annexe qui est très souvent appliquée, c'est un affichage du jugement sur le site internet ou par tout moyen par l'employeur et aux frais de celui-ci, dans la limite du montant de l'amende. Donc là, double peine, la peine pécuniaire et en plus la peine, entre guillemets, d'afficher sa condamnation auprès de tout le monde. La procédure. Celle-ci, effectivement, deux types de personnes ont un intérêt à agir. Il y a le salarié en lui-même qui est victime de la discrimination, ce qui est normal, mais il y a également les organisations syndicales représentatives, qu'elles soient au niveau de l'entreprise ou au niveau national. Elles ont également un intérêt à agir contre, effectivement, les écarts de rémunération illégaux, puisque, au nom des salariés, ils peuvent intenter une action contre l'employeur sur ces motifs-là. Bien sûr, la question de la preuve qu'on va voir juste après porte dans un premier temps sur eux.
Du coup, j'y viens. Sur qui pèse la charge de la preuve en cas de litige ?
Donc, comme je viens de le dire, effectivement, elle va, entre guillemets, passer par eux d'abord. Mais ça, c'est ce que veut, en tout cas, le principe légal en droit. D'ailleurs, c'est ce que mentionne l'article 1353 du Code civil. Sauf qu'en droit du travail, on a appliqué, en tout cas, la jurisprudence a appliqué une nouvelle règle, ou en tout cas, a sorti un nouvel élément. C'est en fait le principe de la partage de preuves. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il est quand même assez difficile pour le salarié ou même pour l'organisation syndicale d'apporter des éléments concrets qui justifient d'une discrimination ou effectivement d'un écart de rémunération. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas forcément accès à l'ensemble des fiches de paye ou à l'ensemble des rémunérations des différents salariés. Donc, effectivement, à cette difficulté d'apporter la preuve, la jurisprudence de 2004 a poser ce fameux principe de charge, enfin de preuve partagée. Et du coup, ça consiste en quoi ? Le salarié ou l'organisation syndicale n'a pas l'obligation d'apporter des preuves concrètes pour indiquer donc, une inégalité. Il doit juste, le juste bien sûr, faut tempérer bien sûr, il a juste besoin d'apporter un faisceau d'indices qui pourrait caractériser une inégalité de traitement ou de rémunération. Et après, c'est à l'employeur de justifier qu'il n'y a pas un écart de rémunération illégal et s'il y en a un, de le justifier de manière objective, bien sûr, dans la limite de la loi. Voilà en fait ce principe de partage de la preuve.
Merci beaucoup Gwenaëlle pour toutes ces réponses. Nous allons du coup passer à vos questions cette fois-ci. Nous allons tenter de répondre à un maximum de vos questions. Je vous le rappelle, si on ne peut pas répondre à la vôtre, n'hésitez pas à la poser directement à nos juristes qui seront ravis de vous répondre dans les plus brefs délais. Donc Gwenaëlle, première question de Maryse sur l'index. Si l'entreprise est passée à plus de 50 salariés en 2023, doit-on donner cet index en mars 2024 ?
Alors non, bien sûr, pas dans le cas immédiat, bien sûr. Maintenant, tout dépend de quand est-ce qu'elle est passée effectivement à 50 salariés. Non, il y a quand même un délai, toujours du cas par cas. Mais non, le fait de passer par exemple à 50 salariés le 31 décembre 2023 ne lui impose pas effectivement de donner un index pour le mars 2024. En fait, on va prendre l'année N-1. Est-ce que l'année N-1, il est passé en 50 salariés depuis longtemps ? Si oui, dans ce cas-là, on va essayer de lui imposer donc cet index. Par contre, s'il justifie d'une situation particulière, effectivement, il peut y avoir une dérogation. Par contre, l'année suivante, il ne pourra pas y déroger.
Merci beaucoup, Gwenaëlle. La politique de frais participe-t-elle au principe à travail égal, salaire égal ? La typologie de client, stratégique ou non, permet-il de différencier les barèmes de notre politique de remboursement de frais ?
Alors, vu que le remboursement de frais effectivement fait partie de la rémunération et notamment des avantages pécuniers ou des avantages en nature, effectivement, ça rentre déjà dans ce critère de travail égal, salaire égal. Mais c'est sûr que effectivement, ça va dépendre entièrement du client ou en tout cas des charges qui sont imputées pour ces différents frais. La typologie du client, alors là, j'avoue que j'ai du mal à saisir le concept de typologie du client, mais ça va, si je peux permettre de prendre peut-être un cas concret, si effectivement le client qui engage des frais est plus ou moins loin de l'entreprise et que du coup un salarié a besoin d'engager plus de frais pour accéder à ce client, effectivement, ça justifie d'un écart de rémunération ou en tout cas d'un remboursement de frais puisque le travail n'est pas égal. Il y a effectivement une justification objective qui permet de différencier le remboursement des frais. Si c'est exactement ça, votre question, dans ce cas-là, je pense avoir y répondu. Par contre, si vous parlez de typologie, en tout cas d'un critère plus précis, je vous inviterai plus à contacter un de nos juristes pour qu'on clarifie la situation.
Merci beaucoup, Gwenaëlle. Le critère comportement du salarié dont tu parlais tout à l'heure n'ouvre-t-il pas la voie, pardon, à l'écart à la tête du client ou à la cooptation plutôt qu'à la compétence réelle et à la plus-value professionnelle du salarié?
Ben, si, en fait, ça peut aller effectivement engager ce type de discrimination. Maintenant, encore une fois, c'est toujours du cas par cas. Comme les arrêts que j'ai pu vous donner, du coup, pour justifier ces écarts de rémunération, c'est effectivement basé sur des éléments concrets que l'employeur effectivement va donner. Par exemple, pour l'insuffisance, du coup, l'insuffisance salariale, vous vous doutez bien qu'il n'y a pas de critère de tête du client. Pour se baser sur une différenciation ou en tout cas le fait qu'il travaille moins bien, il y a des éléments objectifs sur lesquels se baser. Et là, pour le coup, ça ne se base pas sur la tête du client. Sachant que si c'est le cas, et ben dans ce cas-là, elle, la salariée ou le salarié pourra effectivement, en tout cas, apporter un faisceau d'indices qui indiquerait qu'effectivement il y a une écart de rémunération avec un salarié qui pourrait en tout cas être différent. Et dans ce cas-là, ce sera l'employeur par tout moyen de justifier d'un élément objectif. Et donc, la tête du client, au bout d'un moment, ça a ses limites. Pareil, la cooptation, effectivement, je comprends le principe de savoir si, par le biais donc, des affinités, est-ce qu'il ne va pas y avoir une préférence pour l'une ou pour l'autre. Encore une fois, on ne se base pas sur l'affinité, on se base sur des éléments objectifs. Si on n'a pas assez d'éléments objectifs pour faire une différenciation de salaire, vaut mieux, effectivement, avoir une rémunération équitable pour tout le monde.
En parlant de rémunération, donc une question de David. De quelle rémunération parle-t-on? Salaire de base uniquement ou salaire de base plus variable, prime, heure sup?
Eh ben, effectivement, je vous l'avais dit au tout début, donc effectivement, le principe donc de travail égal, salaire égal, ou en tout cas, travail équivalent, rémunération égale, le critère de la rémunération ne se base pas uniquement sur le salaire de base, c'est trop facile. Il y a également l'ensemble des primes qui sont versées, l'ensemble des avantages, des accessoires payés, des avantages en nature, en espèces, etc. Maintenant, concernant les heures supplémentaires, la rémunération des heures supplémentaires, bah, elle ne dépend pas effectivement de la personne, puisque du coup, on va se baser sur son salaire, son taux horaire, et effectivement, une personne qui va faire du coup des heures supplémentaires sera rémunérée ou en tout cas majorée par des critères objectifs qui sont mentionnés par la convention collective nationale. Ça veut dire que concrètement, s'il y a une différence de salaire qui se base sur les heures supplémentaires, et bah du coup l'élément est objectivé. Cet écart de rémunération sera basé uniquement sur les heures supplémentaires, puisqu'un salarié en aura fait plus qu'un ou qu'une autre. Et dans ce cas-là, la rémunération est légitime. En tout cas, l'écart est légitime. Mais sur la base, en tout cas salariale, on prend la base et voir s'il y a des heures sup. Par contre, si tout le monde a fait des heures sup au même niveau avec le même nombre d'heures, dans ce cas-là, normalement, un écart salarial ne peut pas exister, sauf autre élément.
Merci beaucoup Gwenaëlle. Est-ce que l'expérience peut justifier un écart de rémunération à poste égal?
Oui, l'expérience peut justifier du coup un écart de rémunération. Maintenant, il faut, comme le diplôme, puisqu'on l'a vu juste avant, comme le diplôme, il faut que la différence d'expérience sur le poste apporte un élément supplémentaire dans l'exercice de celui-ci. Le simple fait que la personne soit sur un poste, mais qu'une personne qui vient d'arriver fait exactement la même production ou effectivement la même, enfin correspond, fait le même travail dans les mêmes conditions avec la même production, le simple fait qu'il y ait de l'expérience en plus ne justifie pas un écart de rémunération. Il faut vraiment que l'expérience apporte une plus-value. Et dans ce cas-là, il ne faut pas confondre l'expérience et l'ancienneté. Puisqu'effectivement, l'ancienneté valorise, entre guillemets, l'expérience d'un point de vue année dans l'entreprise.
Merci beaucoup, Gwenaëlle, pour l'ensemble de ces questions, pour ces réponses plutôt. Pour aller plus loin, je vous invite vivement, et je crois qu'Élodie vous a mis, et même sûr, les liens dans le chat, à télécharger dès maintenant notre dossier complet rédigé par nos juristes sur l'égalité de rémunération femmes-hommes et bien évidemment vos obligations. Il comporte un modèle de lettre, un modèle de contrat et énormément d'explications pour vous aider au quotidien. Vous pouvez également télécharger notre modèle d'accord sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes directement via le lien ou sur notre site. Je vous le redis, mais vraiment n'hésitez pas à aller découvrir nos formules que nous avons créées spécialement pour les professionnels sur notre site, nos solutions pro ou nos solutions premium. Gwenaëlle, merci beaucoup de l'ensemble de tes réponses. C'était très clair et très intéressant. Nous retrouvons Gwenaëlle d'ailleurs en webconférence sur les réunions du CSE qui sera le 29 février à 14h. Et avant, la semaine prochaine, avec notre juriste Alexandra Marion, nous allons parler de l'inaptitude professionnelle, la procédure, le licenciement et bien évidemment, vos obligations employeurs. N'hésitez pas à vous inscrire. L'inscription, la participation, bien évidemment, est gratuite. Merci beaucoup pour votre attention et votre fidélité. Je vous dis à très bientôt et merci encore, Gwenaëlle.
Merci à toi également et puis merci à tout le monde d'avoir participé.
Au revoir.
Au revoir.